Nous avons lu le chapitre au complet, mais pour le message de ce matin, j'aimerais qu'on relise des versets 15 à 23. Donc la prière de Paul qui termine ce chapitre. Ce chapitre merveilleux. Et donc, on va considérer ça, non seulement pour le message d'aujourd'hui, mais comme je vous l'expliquais en introduction, ça va même être le tremplin, la base sur laquelle les messages d'octobre vont reposer. Et je vais vous expliquer pourquoi, dans un instant. Donc, on peut lire ici dans Éphésiens 1, et on commence au verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Amen.
Oh Seigneur, on se réjouit d'être ton Église, ton corps, toi qui es le chef suprême. C'est tellement réconfortant parce que tu es le seul qui est bon, toujours bon et que bon. On te loue, Seigneur, de ce que on peut faire partie de ce plan rédempteur grandiose, si merveilleux. Et Seigneur, on entonne cette même prière que Paul a priée pour les Éphésiens, il y a 2000 ans. On te demande que tu illumines les yeux de notre cœur, pour que nous aussi, nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, et la richesse de la gloire de cet héritage que tu réserves aux saints. Seigneur, ouvre nos yeux et nos cœurs, que tu fasses silence dans chacun de nos cœurs, que toute distraction et empêchement qu'il pourrait y avoir, qu'elle soit mise de côté. Seigneur, on veut vraiment s'asseoir à tes pieds, toi, notre divin maître. On te le prie au nom de Jésus. Amen. Je dirais que le cœur de ce qu'on a lu là, c'est bon, c'est toute une prière de Paul, mais quand il dit qu'il prie que, à partir du verset 17, que Dieu, le Seigneur de notre Père Jésus-Christ, donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Et ça, là, pour qu'il illumine les yeux du cœur des Éphésiens, de nos cœurs, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. C'est le cœur de la prière de Paul ici aux Éphésiens. Et j'aimerais qu'on en voie les multiples implications, non seulement dans ce message, mais comme je le disais tantôt, durant le mois d'octobre. Et cette prière est très christocentrique, elle est centrée sur la personne et l'œuvre de Christ, pour ça qu'elle est si merveilleuse. Et donc, durant le mois d'octobre, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur dans un temps de prière, où est-ce que, vous savez, des fois on médite la parole, on réfléchit sur ce que le Seigneur nous dit, et c'est avec ces versets que je viens de vous lire, spécialement versets 17 et 18, que le Seigneur a attiré mon attention. Vous savez que la Bible nous parle des richesses incompréhensibles de Christ. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux. Ça dépasse l'entendement, la compréhension humaine. Mais j'aimerais que ce qu'on fasse ensemble, qu'on s'arrête sur tout ce qui est dans cette idée de Dieu qui donne un esprit de révélation. Ici, ça dit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et ça, pourquoi il nous donne ça? Pour qu'on se rende compte de ce qu'on a. On l'a déjà, mais Paul, il prie, c'est tellement grand, tellement fini qu'on puisse en rendre compte comment c'est un glorieux héritage. Et ici, c'est vraiment la notion d'héritage que j'aimerais qu'on regarde ensemble pendant tout le mois d'octobre, ce que le Père a donné au Fils, et nous étant co-héritiers de Christ, c'est ce que nous avons étant en lui. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez absolument tout pleinement en Christ étant co-héritier. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, on voit des notions de ça dans ce qu'on vient de lire, mais aussi Paul renchérit dans Romains chapitre 18, verset 17, et ça dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Et dans Éphésiens 3, 6, ça dit aussi « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Juste vous expliquer un peu ici les expressions. Quand ça parle d'un esprit de sagesse, ça réfère au comment. La sagesse, c'est le comment des choses. C'est savoir comment, dans notre relation ici, quand on parle de la connaissance, c'est une connaissance relationnelle, comme on connaît quelqu'un, on apprend à connaître, on parle du temps avec, OK? Donc, cet esprit de sagesse, c'est le comment, dans notre relation avec Jésus-Christ, comment vivre cette vie nouvelle que nous avons en lui. OK? C'est ça, cet esprit de sagesse. Et l'esprit de révélation dans cette connaissance de Dieu, c'est l'idée que Dieu nous donne adoration restaurée que nous avions perdue en Éden, mais quand que ça nous dit que le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité, c'est ça que Dieu restaure par le salut. Nous étions morts dans nos affaires et nos péchés, mais il nous restaure à la vie et fait de nous des vrais adorateurs. Et c'est ça l'idée de l'esprit de révélation. Dieu se révèle à nous par son esprit dans l'homme intérieur. Et j'aimerais vous dire qu'on a commencé notre passage avec un « c'est pourquoi ». Quand on regarde ça, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde en arrière, parce que c'est pourquoi quoi. Quand ça nous dit au verset 15 « c'est pourquoi », c'est que, voyez-vous, la prière de Paul est une suite à l'introduction majestueuse, où est-ce que ça nous révèle d'Éphésiens 1 à 14, hein, on l'a lu, c'est la grande œuvre rédemptrice trinitaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les trois personnes de la Trinité sont vraiment impliqué dans cette œuvre de rédemption. Et cette œuvre restaure dans un mouvement inouï de la grâce ce qui avait été perdu en Éden. Mm-hmm. C'est ça le salut, c'est plus qu'un ticket au ciel, c'est vraiment la restauration de ce qui a été perdu à cause du péché. Et cette restauration commence, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, là où nous avons perdu ce qui était de plus précieux, la vie même de Dieu. Mm. Et là-dessus, je veux juste qu'on regarde, on a arrêté au verset 23 du chapitre 1, mais si on continue au chapitre 2, regardez ce que ça nous dit. Si vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Non, on n'avait pas la vie. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voyez-vous, on était morts, Dieu nous a donné la vie. Le salut, c'est ça. On a perdu la vie de Dieu en Éden à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais on le retrouve en Jésus-Christ. Juste une couple de références parallèles là-dessus, sur l'œuvre de Christ qui nous redonne la vie. Ça dit au commencement, dans Jean 1, le prologue, l'ouverture de l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Écoutez aussi Colossiens chapitre 1, versets 1 à 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Et ça, mes amis, c'est l'héritage de la vie en Jésus-Christ. Et Jésus est la source de cette vie, c'est lui qui donne la vie. Encore là, c'est ce que la Bible nous dit. Écoutez, Jean 5, 25, 26 et 40. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Puis verset 40, ça dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Christ est celui qui donne la vie. Il est la source de toute vie. Ça nous dit simplement dans 1 Jean 5, 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc, je parlais de Trinité, hein? Le Père révèle quel est l'héritage de la vie que nous avons dans son Fils. Il fait ça par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, le Consolateur qui est envoyé par le Père, l'Esprit de vérité, quand il vient, il rend témoignage de Christ, de tout ce qui est en lui. Et tout ça, mes amis, c'est la restauration de notre adoration intérieure. Il y avait la mort et Dieu met la vie à l'intérieur, dans nos cœurs même. C'est ça, la nouvelle naissance, être régénéré. Là où il y avait de la mort, Dieu met la vie. Il donne la vie à ce qu'il n'y en avait pas. Toutes les autres sources qu'on peut trouver dans le monde, Christ est la source de vie. Les autres, c'est des sources corrompues, idolâtres, amères, qui ne produisent que la mort. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, on va voir trois caractéristiques de cette vie que nous héritons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Trois caractéristiques. D'abord, quelle est l'origine de cette vie? Vous connaissez Galates 2:20, on va y tourner. Vous pouvez garder un petit crayon, un petit papier, quelque chose dans Éphésiens, on va retourner tantôt, mais on va se promener un peu avec différents versets ce matin. Galates 2:20, vous connaissez, peut-être même pourrait nous le donner par cœur. Moi, j'étais parti du mauvais bord, j'étais parti vers la fin, c'est avant Éphésiens, juste avant Éphésiens en fait. Galates 2:20, vous connaissez, hein? Verset extraordinaire. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'origine de notre vie. J'espère ici que non seulement individuellement, mais aussi collectivement, en tant qu'Église, que nous comprenons l'importance vitale de notre union avec Christ. L'union avec Christ, c'est la grande vérité du Nouveau Testament. C'est la grande vérité qui est l'accomplissement de ce qui était dans l'Ancien puis qu'on voit arriver en Jésus-Christ qui a accompli l'œuvre du calvaire. C'est tellement grand, c'est tellement riche, c'est ce qui nous est révélé. C'est pour ça que Paul priait que les Éphésiens se rendent compte de tout ce qu'ils ont en lui. Christ est leur vie. Comme Paul le dit, hein? Pour moi, mourir m'est un gain. Et Christ est ma vie. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Et donc, cette union avec Christ, le fait que non seulement Christ est mort pour nous, mais nous sommes morts avec Christ, non seulement qu'il est vivant, il est ressuscité des morts, mais nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Nous sommes morts au péché, vivants pour Dieu. C'est ça notre union avec Christ. C'est tellement fondamental, non seulement individuellement, mais aussi comme Église. Nous sommes vivants en lui. Maintenant, c'est comme ça qu'on comprend que Jésus lui-même est la réponse, ou si vous voulez, la solution de Dieu à la malédiction universelle de la mort. Pourquoi? Parce que partout, par un seul homme, la Bible nous dit, hein? En fait, je vais vous le lire, ce verset-là. Ça dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est la malédiction de la mort, mais Christ, c'est la bonne nouvelle. Or, là où la loi elle était intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis vous connaissez évidemment, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Christ est l'origine de notre vie. Si on a quelque chose de bon en nous, c'est Dieu qui l'a implanté là, c'est sa vie. Maintenant, J'avais dit que dans Éphésiens, gardez une place pas trop loin, dans Éphésiens 1.15, hein, Paul, lui, il prie au verset 1.15, « Ayant entendu parler de leur foi au Seigneur Jésus et de leur amour pour tous les saints. » Vous savez que s'il y avait quelque chose de bon comme ça dans ces chers Éphésiens, c'était pas par leur bonté inhérente, c'était par la grâce de Dieu. Paul louait Dieu pour l'œuvre que lui faisait dans les Éphésiens. S'il y avait de la foi et de l'amour dans les Éphésiens, c'était parce que la vie de Christ y avait été implantée. C'était l'œuvre de Dieu parmi eux. Pourquoi? Parce qu'on sait que, comme ça dit dans Romains 1, 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » C'est clair que l'unique source de toute réelle et authentique bonté dans les enfants de Dieu origine de Dieu et non pas de nous. Puis là, je vais prendre un peu le temps ici de développer ça. Parce qu'il y a un mensonge puissant et répandu concernant la bonté inhérente de l'être humain. Savez-vous que ça, c'est de l'humanisme? C'est satanique? C'est charnel? Ce n'est pas de Dieu. Et on sait que c'est ça dans le monde, n'est-ce pas? Moi, j'ai été élevé là, à l'école, je n'ai pas été en enseignement religieux du tout, puis j'ai été élevé sur la doctrine humaniste. On est bon, on sauve nous-mêmes, puis si on se tient assez fort, tout le monde ensemble, puis chacun par notre propre bonté, notre propre volonté, on va s'en sortir. Puis là, on peut rire peut-être des non-sauvés qui pensent ça, mais pourquoi je veux prendre le temps de m'arrêter là-dessus, c'est que cette pensée s'émise dans les milieux et la pensée chrétienne. C'est là que c'est vraiment un problème. Pourquoi? Parce qu'on persiste dans cette doctrine pernicieuse de la sanctification par les œuvres. Ça veut dire que je suis capable de faire de quoi de bon pour grandir dans le Seigneur. Je vois quelque chose en moi, je crois que j'ai quelque chose à quelque part qui est bon, qui peut servir pour glorifier Dieu. C'est faux! Amen. Pourquoi? Parce que la tromperie que beaucoup de chrétiens croient, c'est que s'il y a quelque chose de bon en eux, j'ai pas besoin d'aller à Jésus-Christ comme étant vide, ayant rien, comme dépendant totalement de sa bonté, de sa vie. Et là, je pense à côté de celui qui est ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai un petit quelque chose à quelque part qui est suffisant. Non, je sais, il habite rien de bon en moi. Oh, mes amis, que Dieu nous convainque de ça. Écoutez ce que 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 2, verset 14 nous dit à ce sujet-là. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond en nous, en tout lieu, lourdeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. » Parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort aux uns, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Réponse, seulement Christ.
Amen.
Personne n'est suffisant pour la vie chrétienne, pour tout ce que ça prend. Personne. Maintenant, il y a un autre verset aussi que je voulais vous lire par rapport à ça, c'est dans 2 Corinthiens. Ce n'est pas à nous dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Mes amis, qu'on soit convaincus que la seule chose qu'on peut amener à Dieu, c'est des mains vides, c'est notre incapacité, notre totale incapacité de lui plaire par nous-mêmes.
Amen.
Qu'on n'ait pas un humanisme chrétien comme on a pu avoir toléré pendant plusieurs années. Un autre verset à ce sujet-là, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Donc, tout ce qui est bon, ça vient de Dieu. C'est notre foi qui s'accroche à Dieu, à sa vie. Et j'aime quand ça dit tout ce qui a triomphé du monde. C'est au passé. C'est pas qui va, qui est en train, qui essaye fort, fort, fort. Non, ça dit qui a triomphé du monde. Pourquoi? C'est accompli par celui qui est la source de notre vie. Christ a dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde, ça sera pas facile. Mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde.
Amen.
La victoire, elle est déjà remportée. On se bat pas pour remporter la victoire. On se bat parce que la victoire, elle est remportée, puis qu'on marche dans cette victoire. Mm-hmm. Et dans le fond, tout ce qu'on a, ce qui nous reste, c'est comme on l'a vu dans Galates, c'est vivre dans cette foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Et comme si ce n'était pas assez, Christ qui est la source de la vie, qui restaure, la deuxième caractéristique de la vie donc, qu'on a hérité en Jésus-Christ et qu'on possède en lui, ça nous amène à un autre niveau. Non seulement il est l'origine de la vie, mais j'aimerais qu'on aille voir dans 2 Pierre au chapitre 1 comment il est la puissance de notre vie. Non seulement il est l'origine de notre vie, mais venez avec moi dans 2 Pierre au chapitre 1, on va voir qu'il est la puissance de notre vie. Deux Pierre, chapitre 1. Juste 2 versets, bien simples, vous les connaissez probablement. Vous savez, il n'y a pas de date d'expiration sur aucun verset dans la Bible. La parole, elle est vivante, elle est éternelle. Et donc, on peut lire dans le verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc, la puissance de la vie. Ici, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que cette puissance-là, elle est englobante. All-encompassing, tout englobante. C'est-à-dire que ici, ça nous dit que la divine puissance de Dieu, la puissance de sa vie, la vie de Christ dans ses enfants, nous donne tout ce que ça prend pour la vie puis la piété. Tu sais, on résume là, c'est quoi notre vie? Ben, c'est pas mal ça, la vie, puis la piété, c'est-à-dire la vivre de façon qui glorifie Dieu. On a absolument tout par la vie qui est la puissance de Dieu en nous. Autrement dit, on a tout pour tout. Est-ce qu'il manque de quoi? Non, quand tu as tout pour tout, je veux dire, tu as absolument tout ce que tu as besoin pour vivre cette vie. En plus de ça, cette puissance de la vie de Christ est le fondement de notre victoire, du triomphe. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur la loi spirituelle qui est énoncée si simplement, mais si puissamment dans Romains 8:2. Connaissez-vous Romains 8:2? Si vous ne l'apprenez pas, celle-là, je pense qu'elle va avoir 2 chocolats. Et c'est court, mais la vérité est tellement grande. Ça dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une loi spirituelle, comme la gravité. Tu sais, on prend quelque chose pour le tirer dans les airs, ça va tomber, mais il y a une loi spirituelle qui fait que la loi de l'esprit de vie, elle est plus forte, elle supplante, elle m'affranchit. C'est une puissance dominante qui expulse la mort. C'est ça la vie de Christ. Wow! Et maintenant, si le fait que Christ est la source de notre vie, c'était la réponse à, comme je l'ai dit, hein, la malédiction universelle de la mort, ben si la puissance de la vie de Christ, c'est sa réponse aux méfaits de la mort. Pourquoi? Parce que la mort détruit, la mort sépare, la mort est une aliénation de tout ce qui est de Dieu. Mais la vie de Christ, par la supériorité, par sa restauration, sa puissance rédemptrice, défait les effets maléfiques de la chute. C'est ça la puissance de la vie de Christ dans ses enfants. Et je vous avais dit de garder une place dans Éphésiens, juste pour vous relire versets 19 et 20. Ça dit que l'héritage que nous avons de cette vie qui est en Jésus-Christ, ça dit que cet héritage qui est réservé aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La puissance de la vie de Christ qui a triomphé d'une façon parfaite et totale. Maintenant, la puissance de la vie de Christ est clairement énoncée comme une partie majeure, partie prenante de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, que le Père a donné à son Fils. Pensez à ça. Le thème du mois, c'est que Dieu nous donne un esprit de révélation. Qu'on pense à ça, le fait que c'est notre héritage, une vie, non seulement dont Christ est la source, mais dont la puissance affranchie, dont la libération est complète, dont la supériorité est totale. Nous avons hérité de cela par le Père, en Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est votre héritage. Et pensez-y, non seulement il y a ça, mais ça nous dit que Christ a été placé comme ça ensuite à la fin du verset 20, au verset 21, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc ça, mes amis, c'est un triomphe total et complet. Christ règne, il est au-dessus de toutes choses et nous avons hérité de cette position de supériorité totale étant en lui. S'il a toutes choses sous ses pieds, si nous sommes en lui, nous sommes dans cette position. Mes amis, ça fait écho à ce qu'on entend, un verset que sûrement que vous connaissez, que vous aimez tellement, Romains 8, 37 à 38. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en lui, on est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça notre assurance, notre confiance qui est fondée sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et qui nous place dans cette position de suprématie. C'est pas que nous, on se pense bon, c'est que nous reconnaissons humblement que nous sommes en celui qui est le chef suprême, celui à qui toutes choses ont été soumises. C'est pas de l'orgueil de croire ça, c'est de l'humilité, c'est croire de ce que Dieu a fait et ce qu'il a fait de nous. Parce que c'est pas nous qui voyons aucun mérite là-dedans, on voit ce que Christ a fait en notre faveur. Mes amis, si on parle de victoire complète et assurée, je ne pense pas qu'on pourrait parler de quelque chose de plus grand que ça. Cet héritage merveilleux que nous avons par la puissance de sa vie. Maintenant, je vais juste amener une petite illustration de ça. Je réfléchissais dernièrement. Vous savez, depuis mars 2020, Dieu fait toutes sortes de choses dans nos vies personnelles et dans notre Église. Vous savez quoi? C'est tout merveilleux. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'on a eu des bouts? Est-ce que c'était vraiment difficile? Oui, absolument. Mais regardez le résultat. Regardez le résultat. Est-ce qu'on a vu, on a été témoin de la puissance supérieure de la vie de Christ sur les forces de ténèbres et tout ça qu'il y a dans la société, dans nos vies? Moi, je dis absolument. Puis ici, on a ce matin une représentation de ça.
Amen.
Un peuple qui tremble aux paroles de l'Éternel, qui désire sa présence, qui le veut lui. Oui. Savez-vous quoi? Peut-être que si on arrêtait et on disait, « Ah, on a des différences de ci et de ça. » Puis, par exemple, OK, qu'est-ce qui va arriver après? Là, si on savait, tout le monde... OK, c'est quoi là, la prochaine affaire dans le calendrier de Dieu? Là, on pourrait avoir toutes sortes d'explications et tout ça. Mais savez-vous quoi? Je veux juste amener un point par rapport à ça. L'eschatologie. Pourquoi est-ce qu'on est unis pareil? On aurait toutes les raisons de ne pas l'être. Tu sais, si on s'assurait et on faisait une espèce de réunion de discussion eschatologique. Non, je crois que la raison pour laquelle Dieu nous unit comme ça de façon inouïe, c'est parce que nos yeux, notre attention, ne sont pas sur toute l'explication de tout ce qui va arriver puis comment, mais celui qui est notre victoire maintenant. Parce qu'effectivement, la victoire ultime est promise. Mais savez-vous quoi? Que la victoire présente, elle est là aussi. Et c'est ça qui est notre joie, notre force, notre unité, celui qui est notre victoire. Puis on se réjouit là-dedans parce qu'on a accès à ce Dieu pour avoir accès à cette vie supérieure qui est plus grande que la puissance de la mort dans nos vies. Puis vous savez, c'est vrai, les chrétiens, on est appelés à vivre d'espérance. Nous avons une espérance vivante en Jésus-Christ. Mais je pense pas qu'on est appelé à vivre dans le futur puis à essayer de tout expliquer ce qui est dans le futur. Dieu nous a donné ces choses pour une raison, mais savez-vous qu'il nous a donné sa parole pour nous affermir dans la vérité présente. C'est pour ça que Pierre, quand il écrit dans le deuxième épître qu'on a commencé à lire, juste quelques versets, il dit « J'aurais bien d'autres choses à vous dire. » Puis il parle de toutes sortes de vérités merveilleuses, mais il dit « Non, excusez, je ne sais pas si j'aurais d'autres choses à vous dire, mais il dit « Je vous répète les mêmes choses, mais je me lance pas vous les répéter. » Quoi que vous soyez affermis dans la vérité présente. Pourquoi? Parce que pensez-y. Dieu travaille dans nos vies pour former Christ, pour qu'on soit affermi dans la vérité du fait qu'il est notre vie, que peu importe ce qui arrive, nous pouvons toujours avoir une pleine assurance en lui. Je crois que c'est ce que Paul, c'est à quoi il fait référence, lui qui est en prison lorsqu'il a écrit Philippiens. Et qui nous dit « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Le lendemain appartenait à Dieu. Pour lui, il était ferme dans la vérité présente. Dieu l'affermissait et la puissance de la vie de Christ était plus forte que l'angoisse, que la peur, que l'amertume contre les gens qui auraient pu y faire du mal pour lesquels il était en prison. La vie de Christ dominait sur toutes ses forces et c'est pour ça qu'il avait cette assurance, même en prison, et que, paradoxalement, lui qui était en prison a écrit cette épître de Philippiens en parlant de joie, plus qu'à tout autre endroit dans ses épîtres. Maintenant, ça m'amène à la troisième caractéristique de la vie que nous avons en Christ. Non seulement l'origine est Christ, non seulement il est la puissance de notre vie, mais j'aimerais qu'on s'arrête juste sur une pensée simple pour terminer ce matin, et ça c'est dans Tite au chapitre 3, la grâce de cette vie. Tite au chapitre 3, la grâce de la vie en Christ. La source, la puissance, la grâce. Tite chapitre 3. On va commencer au verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voyez-vous encore cet héritage? L'héritage de la grâce de Dieu, cette vie qui nous est donnée dans sa grâce. Et je veux ici simplement développer le concept révolutionnaire de la grâce de la vie dans l'histoire, mais je vais prendre le mot pathétique de l'humanité. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'humanité, là, c'est vraiment pas glorieux. Premièrement, il y a des guerres à gauche, à droite, ça n'arrête pas. Mais quand on regarde l'histoire des religions, les hommes se donnent à des dieux qui, là, sont tout aussi instables et méchants. Puis, non, mais c'est vrai, c'est des dieux qui sont le reflet du cœur humain. Là. Puis là, si t'es pas content, il y en a un qui va t'envoyer des éclairs à la tête, puis sinon, il y en a un autre qui va faire que t'auras pas tes récoltes parce que t'as pas... Puis, c'est vraiment ça. On voit toute une espèce une histoire pathétique, c'est ça, de mille et un moyens d'apaiser cette colère des dieux. Pourquoi? Parce que, vous savez, les hommes ont passé à côté de ce que Dieu, sa rédemption, et à cause de ça, ils ont tâtonné comme ça à gauche, à droite, sans jamais trouver la réponse. Pourquoi? Parce que je crois que la grâce de la vie, c'est la réponse de Dieu au mérite de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce qu'on mérite par la mort, c'est la séparation, la destruction, l'annihilation de toute espérance. C'est pas l'annihilation que je cherchais comme mot, c'est être, j'avais mis tantôt ce mot-là, l'aliénation, être aliéné, d'être étranger à la vie de Dieu. C'est ça que ça fait la mort. Et malgré tous les efforts des hommes avec des religions, des sacrifices, toutes sortes de choses, ça l'a jamais rien donné. C'est des fruits corrompus que ça l'a donné. Pourquoi? Parce que c'est basé sur les pensées vaines de ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 4. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc c'est ça l'histoire de l'humanité. Mais Dieu... Mais Dieu, dans sa grâce infinie, est venu accomplir ce qu'on vient de voir ici. Que Dieu, de sa bonté, lui, le sauvant dans son amour pour les hommes, a été manifesté, puis il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et ça, c'est toute l'œuvre de sa grâce. Et mes amis, pensez à ça. Il y a quelque chose de totalement révolutionnaire par rapport à la pensée humaine là-dedans. Quelque chose d'extraordinaire qu'on voit, ça ne peut pas originer de l'homme, parce que tout ce qui vient de l'homme, c'est la confusion, la perdition. Cette humanité désemparée, tâtonnée, n'a jamais réussi à trouver quelque chose d'aussi parfait que la grâce de la vie qui est donnée gratuitement en Jésus-Christ. Et c'est gratuit parce que lui-même a payé. Dieu est venu et a réconcilié ce grand dilemme qu'il y a eu de toute humanité. Comment un Dieu juste peut déclarer juste le coupable? C'était impossible à réconcilier. Il a fallu que Dieu lui-même s'incarne et qu'il aille à la croix. La croix, c'est la réconciliation parfaite de la justice de Dieu et de son amour. Et c'est comme ça qu'on a pu être réconcilié avec Dieu. C'est ça la grâce de la vie. Et mes amis, rien, mais je dis absolument rien, ne va même à la cheville pour comparer à cette œuvre rédemptrice parfaite. Je veux dire, en fait, c'est irrisible. Parce que quand on comprend ça, on voit les religions, tout ça, c'est vraiment ça, c'est la vanité des pensées, être étranger. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Maintenant, je crois qu'à la lumière de ça, c'est pour ça que si quelqu'un tourne le dos à cette vie, à cette grâce de la vie, lorsqu'elle est placée devant lui, c'est d'autant plus grave et la personne est d'autant plus coupable et c'est horrible parce qu'elle rejette beaucoup de lumière. Si vous êtes ici, puis vous êtes exposé comme ça à l'Évangile, non seulement à l'Église, mais avec les gens qui vous entourent, et que encore vous rejetez cette lumière, vous rejetez la grâce de la vie qui est mise devant vous, c'est incroyable, je veux dire, c'est effroyable comme pensée. Que Dieu puisse convaincre les cœurs ici de ceux qui ne connaissent pas Christ en vérité. Pourquoi? Parce que la grâce de la vie est là, mise devant vous. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, le Saint-Esprit qui vous convainc de votre besoin, endurcissez pas votre cœur. Répondez par la foi à l'offre de la grâce de la vie. Et pour ceux ici qui sont des enfants de Dieu, qui connaissent la grâce de la vie, qui étaient morts mais qui ont été rendus à la vie par l'Esprit de Dieu, pensez à la folie de vouloir essayer par nous-mêmes, de se retrousser les manches face à la perfection merveilleuse de cette grâce qui nous est donnée par notre union à la mort et la résurrection de Christ. Les Anglais disent « beat that ». Je veux dire, « beat that ». Tu sais, mort au péché, vivant pour Dieu. Puis en passant, je crois qu'on a été bon à prêcher la première moitié de l'Évangile. Ah oui, Christ est mort pour nos péchés, puis On peut être réconcilié avec Dieu, puis c'est merveilleux, puis c'est vrai. Christ est mort pour nos péchés, mais savez-vous quoi? Les chrétiens ont besoin de se faire prêcher l'autre moitié de l'évangile. On est mort avec Christ, on est vivant maintenant en lui. Ça, c'est l'autre moitié. C'est notre union avec Christ, c'est l'évangile pour les saints, pour ceux qui sont sauvés. Et malheureusement, ça a été manquant dans nos églises. Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup de mots, beaucoup de flafla, peu de vie. Les paroles de Christ sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les bonnes résolutions, les bonnes intentions ne servent à rien. C'est Christ qui vit en nous. C'est le seul espoir. Maintenant, j'amène tout ça à cette pensée simple pour terminer ce matin. À la lumière de tout ce qu'on a vu, de ce qu'on a considéré ce matin. Vous rendez-vous compte que quelqu'un qui déciderait de laisser tomber la religion chrétienne, laisserait tomber la foi qui lui a été transmise, rejette la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, de l'univers. C'est pas rien. Il n'y a rien de banal à ça. En fait, c'est la pire chose qui peut pas arriver, surtout lorsque c'est motivé par des choses aussi temporaires, vaines et éphémères que les choses de cette vie, que la Bible nous compare à une vapeur. Vous qui ne savez ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Est-ce que je donne plus d'importance à ce que la Bible décrit comme une vapeur versus à la vie qui est d'une qualité, d'une éternelle et qui est incomparable? C'est pas surprenant que ça nous dit dans Hébreux: de quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Mes amis, si vous êtes ici et que vous avez entendu l'Évangile mais vous n'y avez pas cru, savez-vous, vous avez été sanctifié, vous êtes à part sur la planète Terre, dans l'univers. Il n'y a pas grand monde qui a été exposé comme vous avez pu l'être à l'Évangile. Déjà, vous avez une place spéciale dans les plans rédempteurs de Dieu. Ne foulez pas aux pieds l'héritage que Christ met devant vous. Pourquoi fouler aux pieds cet héritage éternel, spirituel, le plus précieux pour les plaisirs passagers du monde? Demandez à Moïse. Il ne l'a pas laissé penser. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Oh, mes amis! Voyez-vous l'échange ici? Il a décidé d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de tomber dans la tromperie du péché. Il a décidé de subir l'opprobre de Christ plutôt qu'avoir les trésors éphémères de ce monde. Pourquoi? Il avait les yeux sur la rémunération. Christ est la rémunération, sa vie. Mes amis, si on a ça, on n'a pas besoin de rien d'autre. On aurait beau être en prison comme Paul, on chanterait. On aurait beau être dans les pires des situations, notre espérance ne peut être anéantie parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et mes amis, ça, c'est ça qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. Et donc, mon appel ce matin, c'est, hey, qu'est-ce qu'on fait à la lumière de ça? Ce grand trésor, est-ce qu'on a les yeux sur celui qui est notre rémunération? Est-ce que c'est la plus grande richesse qu'on chérit? Plus que toute autre chose. Soyons honnêtes ce matin. On parle de grands trésors merveilleux, mais des fois, ce qui est pitoyable, on prend des pacodilles, puis on s'attache à ça plus que le plus grand trésor qu'il y a. Pensez à ça deux minutes. Des citernes crevassées qui retiennent pas l'eau. Oh, que Dieu nous aide, qui nous ouvre les yeux pour voir ces richesses merveilleuses, incompréhensible de Christ, et qu'on s'unisse ensemble dans la prière pour invoquer vraiment qu'il nous ouvre nos yeux et qu'on vive à la lumière de ses trésors éternels. Merci Seigneur pour le fait que ta parole nous révèle Christ dans toute sa beauté, dans sa perfection, la vie dont il est la source, la vie qui a une puissance supérieure à celle de la mort, du péché, de tout ce qui détruit, la vie qui est donnée par grâce seule. Oh Seigneur, c'est à toi qu'on regarde en terminant. Toi, notre trésor, notre rémunération. Oh, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, qui a devant ses yeux la grâce de la vie qui lui est présentée, oh, je te prie que cette personne puisse voir que c'est la chose la plus précieuse qu'il peut y avoir dans cette vie. Que Christ est la perle de grand prix. Oh Seigneur, fais ton œuvre pour amener à la conviction ceux qui ne te connaissent pas encore, mais aussi ton peuple, tes enfants. Oh, que ce soit notre trésor, ce qu'on a de plus précieux. On t'invoque, Seigneur, c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on désire. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.